Voici le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Le compte n'y est pas, loin de là. La France en manque de masques, 35 millions déjà arrivés de Chine. D'autres attendus aujourd'hui. La production française s'intensifie aussi, mais pas suffisant pour couvrir les besoins. Isoler les malades du coronavirus dans des hôtels pour qu'ils ne contaminent pas leurs proches, c'est ce que font certains pays. En France, un ancien directeur général de la santé, William Dab, le préconise, vous l'entendrez. Des initiatives et des applaudissements pour les soignants, mais certains vivent un enfer avec leur voisinage. À Saint-Étienne, une infirmière porte plainte. Les conditions de travail des personnels de santé, la médecine de catastrophe, vous y reviendrez avec votre invité à 8h20. Eric.
Oui, parole de médecin ce matin, Jean-François Corti, ancien directeur des opérations à Médecins du Monde. Son expérience en France désormais auprès des patients atteints du Covid-19 et vos questions dès maintenant au docteur Corti. C'est au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, des fêtes de Pâques confinées, messe en direct sur Internet, une procédure de sauvegarde bientôt déclenchée pour les magasins La Halle, information France Inter, des maires qui s'opposent à la reprise des chantiers BTP et puis rencontre avec un handballeur français en activité en ce moment, pas d'interruption de championnat en Biélorussie.
France Inter.
40 millions de masques par semaine, voilà les besoins des seuls personnels soignants pendant cette épidémie de coronavirus. Il y a quelques années, la France disposait d'un important stock de masques chirurgicaux ou FFP2, il n'en est plus rien. Ces dernières semaines, les commandes vers la Chine surtout se sont multipliées, des centaines de millions, 1 milliard, on en serait à presque 2 milliards de masques commandés. Et ce nombre, communiqué hier soir par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, dans son point quotidien, 35 millions de masques sont arrivés de Chine, un avion doit tailler. Atterrir ce matin en France avec une nouvelle cargaison. La France qui y met également les bouchées doubles pour produire des masques, Sophie Becherel.
Commandes massives à l'étranger et en France, reconversion des lignes de production textile, tous les efforts ont porté ces dernières semaines sur la fourniture de masques. Pour l'essentiel, ils arrivent de Chine. Le pont aérien mis en place fin mars a repris mercredi après une interruption. La Chine avait durci ses contrôles sanitaires suite à la détection d'un cas positif de Covid-19 parmi les pilotes d'Air France. Désormais, 3 entreprises de logistique assurent les vols. Antonov, Boeing 777 Cargo, les avions font des rotations plusieurs fois par semaine. À ce jour, précise Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, la France a réceptionné 35 millions de masques.
Nous avons ce pont aérien d'importation de masques qui est évidemment important et qui se passe bien. Donc les autorités chinoises collaborent parfaitement avec les autorités françaises. Il n'y a pas de souci de qualité. La qualité est surveillée évidemment par les autorités chinoises, aussi par les autorités françaises, mais nous n'avons pas observé de défaut et nous avons déjà eu 35 millions de masques reçus sur le territoire.
35 millions alors que les besoins sont estimés à 40 millions par semaine. Cela explique une situation toujours tendue dans les établissements hospitaliers, sans parler des autres professions paramédicales, de l'agroalimentaire ou des personnes en contact avec le public. Chaque livraison est vécue comme une victoire. Hier, l'Île-de-France a annoncé la livraison de 1000 masques chirurgicaux pour chacune des pharmacies de la région.
Sophie Becherel, et le coronavirus a tué 630 personnes de plus en 24 heures en France dans les hôpitaux et établissements pour personnes âgées. Plus de 13 800 morts selon le bilan d'hier soir, mais l'éclaircie se confirme. Pour le troisième jour de suite, le nombre de patients en réanimation est en baisse, à plus de 6 800 personnes tout de même. Et les malades, une fois qu'ils n'ont plus besoin de rester à l'hôpital, que faire pour qu'ils ne contaminent pas leurs proches en rentrant chez eux? L'une des réponses pourrait être de mettre ces patients en quarantaine dans des chambres d'hôtel, comme c'est le cas notamment en Espagne. C'est ce que propose également William Dab, directeur général de la santé. C'était entre 2003 et 2005. Il a dit dans un entretien accordé au quotidien Le Monde et le confirme au micro d'Hélène Chevalier.
Ça fait quand même plusieurs semaines que ce sujet est sur la table. On sait que les Chinois l'ont utilisé. On sait que Madrid l'utilise avec succès. On sait que les hôtels sont vides. Et on laisse retourner chez eux des gens contagieux, soit qu'ils sortent du cabinet du médecin, soit qu'ils sortent de l'hôpital où ils n'ont plus besoin de soins. Et évidemment, retournant chez eux, ils contaminent d'autres gens. Il faut quand même penser que beaucoup de gens vivent dans des petits appartements. Les enfants sont là, tout le monde est présent. On ne peut pas éviter une contamination. C'est vraisemblablement une des principales sources qui continue d'alimenter le flux des malades. Même si ce flux est ralenti, il n'est pas tari. Les hôtels sont vides, encore une fois. C'est quand même pas compliqué à organiser, mais il y a une sorte de procrastination. Peut-être que juste personne ne sait qui doit prendre cette décision-là et tout le monde se dit que c'est l'autre qui va la prendre, et ça fait des jours que ça dure et rien ne se passe.
Et interrogé hier soir par France Inter, l'actuel directeur général de la Santé a expliqué que la France n'envisageait pas pour le moment de placer les malades dans des chambres d'hôtel. Selon Jérôme Salomon, ces patients ne seraient plus contagieux.
On a parfois relayé ici de belles histoires de solidarité avec les soignants pendant cette période d'épidémie, des applaudissements tous les soirs à 20h. Mais il y a aussi des menaces pour certains.
Et c'est ce qui arrive à une infirmière de Saint-Étienne, écœurée. Elle a porté plainte et s'est confiée à Sophie Parmentier.
Samia, 43 ans, exerce son métier d'infirmière à la fois à l'hôpital, à la fois à domicile, en libéral. Elle habite un petit immeuble tranquille où elle connaît tous ses voisins et cette semaine, elle a eu un choc en trouvant dans sa boîte aux lettres un courrier de menaces anonyme.
Ça faisait un petit moment que j'avais pas ouvert ma boîte. Hein. Et sous mes lettres, donc, je trouve un petit mot donc sur papier libre, hein, une petite feuille blanche. Un courrier écrit à la main sur lequel il est écrit que j'étais en danger et que je devais quitter les lieux, mais au plus vite, quoi. Que s'il y avait un cas de Covid-19 dans l'immeuble, j'en serais entièrement responsable. Je suis remontée, je suis arrivée chez moi, il y avait ma fille, j'étais décomposée. J'ai eu mal, je me suis sentie attaquée pour ce que je fais, de soigner des gens, de me dire de quitter l'immeuble, de dégager parce que je soigne des gens. C'est écœurant. C'est écœurant.
Samia a porté plainte parce qu'elle a désormais peur pour elle et pour ses deux enfants. Une enquête a aussitôt été ouverte. Depuis le début du confinement, il y a eu dans toute la France plusieurs dizaines de plaintes du même type, affirme la police nationale, soit pour des menaces, soit pour des agressions violentes de soignants qui se sont parfois fait voler des masques.
Sophie Parmentier. Faudra-t-il travailler plus après le confinement pour rattraper la perte d'activité due au confinement? On l'entend de plus en plus, notamment dans la bouche du MEDEF. 8 millions de salariés en chômage partiel dans plus de 700 000 entreprises. Certaines sont dans des situations vraiment critiques. C'est une information France Inter. Dans les magasins La Halle, vêtements ou chaussures propriété du groupe Vivart, une procédure de sauvegarde devrait être déclenchée en milieu de semaine prochaine, Maxime Deps.
Cette procédure de sauvegarde permet de reporter le paiement des loyers dont le montant important pour la Halle s'élève à 10 millions d'euros par mois, selon les syndicats. Il s'agit de protéger le maximum de trésorerie alors que les 800 magasins la Halle sont aujourd'hui fermés, que la situation n'était quand même pas déjà des plus reluisantes avant l'épidémie. Karim Cheboub de la CGT Vivart plaide en cette période difficile pour un geste de la part des bailleurs, mais ça...
Ces grands groupes sont en train de négocier avec les représentants de l'habillement et de la chaussure. Et ils veulent pas entendre parler d'effacer l'ardoise.
L'ardoise qui ne sera pas effacée et la double peine pour les salariés, sachant que le groupe en difficulté avant la crise du coronavirus ne devrait a priori pas bénéficier non plus de gestes de la part de l'État, pas de garantie pour faciliter un éventuel prêt qui permettrait de renflouer les caisses, cette garantie n'étant attribuée qu'aux entreprises impactées mais en bonne santé avant le début du confinement.
On alerte les pouvoirs publics d'aider toutes les entreprises, y compris comme la nôtre, pour essayer de passer cette période incertaine. Surtout aujourd'hui, personne ne sait comment on va reprendre la consommation. Tous les spécialistes disent qu'il n'y aura pas de frénésie après la crise et surtout, on n'en connaît pas la durée.
La CGT qui rappelle ce chiffre, 5 000 comme le nombre d'emplois aujourd'hui dans la balance à la Halle.
Un dossier à retrouver sur franceinter.fr. Et le gouvernement lui encourage la reprise des chantiers de BTP avec aussi un guide des bonnes pratiques. Mais certains maires préfèrent protéger ouvriers et riverains et s'opposent à cette reprise. C'est le cas notamment dans le Val-de-Marne, à Gentilly et Fontenay-sous-Bois. Explication Élodie Forêt.
Il avait jusqu'ici privilégié le dialogue, mais cette semaine, Jean-Philippe Gautret, maire Front de Gauche de Fontenay-sous-Bois, est passé à la vitesse supérieure, un arrêté pour interdire les chantiers jusqu'à la fin du confinement, avant tout, dit-il, pour protéger les salariés.
Je vais être un peu caricatural, mais il n'y a pas de raison que les cadres fassent du télétravail et que les ouvriers soient en danger. Il faut qu'on soit cohérent sur le confinement, même si c'est dur pour tout le monde, que c'est pas simple et que moi j'ai pas de problème à faire repartir la machine économique, mais il faut que les décisions soient cohérentes pour tout le monde.
Maire communiste de Gentilly, Patricia Torgeman a, elle, été alertée par les habitants. Elle a écrit aux entreprises pour que 3 chantiers au cœur des cités soient interrompus.
C'était la double peine. J'ai eu beaucoup d'habitants qui étaient révoltés de dire on est obligé de rester à la maison et on peut même pas ouvrir les fenêtres à cause du bruit, de la poussière. Être dans les logements avec pas forcément de balcon et puis être obligé en plus de vivre fenêtres fermées, c'est quand même difficile.
À Gentilly, les entreprises concernées ont accepté de stopper leur activité. Jusqu'à quand? Tout dépendra, répond Patricia Torgeman, des annonces demain d'Emmanuel Macron et d'une éventuelle date de déconfinement.
L'allocution demain soir du président de la République à propos du confinement, selon le journal du dimanche, il pourrait être prolongé jusqu'à la fin, mais au moins jusqu'au 15. Aucune confirmation pour le moment. Le journal évoque également la possibilité de renvoyer la réouverture des écoles au mois de septembre. Réponse demain soir.
Aux États-Unis, l'épidémie de coronavirus a désormais tué plus de 20 000 personnes.
Un bilan le plus lourd pour un pays dans le monde. 1920 morts ces dernières 24 heures. À New York, épicentre de la pandémie, les écoles publiques resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire. En Afrique du Sud, le confinement lui a été prolongé jusqu'au 1er mai. 2000 cas recensés, 25 morts, c'est le bilan le plus lourd du continent. Le nombre d'infections est en baisse. Les autorités veulent intensifier le dépistage via des tests mobiles, des camionnettes qui vont sillonner le pays. Pour le moment, il n'y en a que quelques-unes à Johannesburg. Claire Bargelès.
Ce matin, c'est tout le personnel d'un centre de santé d'un quartier populaire qui se fait tester. Wuzi, agent d'entretien, attend son tour devant la camionnette.
C'est parce que je travaille ici, je nettoie la poussière et les patients, eux, circulent. Ce n'est pas prudent, donc je veux me protéger.
Ces camionnettes sillonnent les zones les plus à risque du pays pour ceux qui ne peuvent pas forcément se rendre dans les centres de test. L'infirmière Zitobi Lekele recueille les prélèvements.
Ça se fait oralement ou bien au niveau du nez, grâce à ce petit instrument. Pour l'instant, on peut tester tout patient qui se présente. Parce que, avoir ou non des symptômes, cela n'indique pas toujours si vous êtes contaminé par le coronavirus.
Les résultats ne sont souvent connus qu'après plusieurs jours. Le pays souhaite obtenir des tests plus rapides, selon Bahoulé Motlonier, du Laboratoire national des services de santé.
On doit se contenter des tests PCR pour l'instant. On devrait bientôt avoir des tests différents à disposition pour que, si le nombre de cas augmente, on soit aussi capable d'augmenter le nombre de tests.
L'Afrique du Sud peut pour l'instant analyser jusqu'à 5000 prélèvements par jour. Le ministre de la Santé espère bientôt pouvoir grimper jusqu'à 30 000. À Johannesburg, Claire Bargelès pour France Inter.
Et partout dans le monde, une fête de Pâques confinée, l'un des moments les plus importants de l'année pour les catholiques, moment de partage à l'église. Mais avec la crise sanitaire, il a fallu s'adapter au Vatican, la place Saint-Pierre vide, bénédiction papale sur écran. À Lyon aussi, le diocèse multiplie les messes sur une chaîne YouTube, tout en appelant les familles à rester chez elles. Reportage Mathilde Amberti.
Emmanuel Gobillard, l'évêque auxiliaire de Lyon, n'a que quelques marches à descendre pour célébrer la messe aujourd'hui. Il n'ira pas plus loin que la chapelle de l'archevêché. C'est cette messe qui sera retransmise en direct pour tous les paroissiens, car les grandes églises habituellement bondées offrent porte close.
Toutes les églises sont vides. Fourvière évidemment, mais c'est beaucoup plus impressionnant. La cathédrale, une cathédrale complètement vide pour la messe chrismale qui d'habitude accueille pas loin de 2000-2500 personnes, c'est incroyable.
Les prêtres essayent de compenser auprès des familles en leur envoyant des livrets, des vidéos, des outils pour la mise en place de la liturgie dite domestique.
Bonjour à vous tous, je suis heureux de vous retrouver. Hier, nous avons ensemble...
Guillaume, par exemple, se rend en famille sur la chaîne YouTube de sa paroisse, celle d'Irigné dans le sud de Lyon.
On est 5, donc on a 3 petites filles avec nous. On profite en fait du support de la paroisse. Tous les dimanches matins à 10h30, donc une messe en direct. Le chemin de croix a eu lieu également en vidéo. Et là, on a pu y assister justement en famille, alors que normalement, les enfants n'y assistent pas au chemin de croix, puisqu'ils sont à l'école le plus souvent. Cet aspect justement communautaire à distance, on le goûte de façon un peu forcée, mais finalement, on y trouve aussi un intérêt certain.
Une Pâque hors norme pour une communauté catholique lyonnaise qui paye par ailleurs un lourd tribut. 5 prêtres sur les 300 que compte le diocèse ont succombé des suites du Covid-19. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Allez, on termine avec l'un des rares sportifs français qui s'entraîne et qui participe à des compétitions en ce moment.
William Acambray, handballeur international français, il évolue dans un pays européen, la Biélorussie, Vincent Pellegrini.
En Biélorussie, le championnat professionnel de football a repris il y a un mois. Celui de handball va s'achever le mois prochain et le titre semble promis au Mechkov Brest, l'équipe où évolue William Acambray, seul handballeur français à exercer aujourd'hui son métier.
On s'entraîne tous les jours. La seule différence aujourd'hui, c'est que les matchs sont à huis clos. Tous les commerces sont ouverts, les restos fonctionnent. La vie est relativement normale. Ça n'empêche pas le virus d'être ici. Au supermarché, les caissières ont des gants et des masques. Je connais des personnes qui ont arrêté de travailler aussi. Il y a quand même de l'inquiétude. Il y a des gens qui prennent des précautions, oui.
La Biélorussie est dirigée depuis 26 ans par l'autocrate Alexandre Loukachenko. À contre-courant de tous les gouvernements européens, il n'a pas pris de mesures contraignantes pour contenir l'épidémie, rappelle William Acambray.
Lui, il prend ça un peu avec légèreté. Il a dit, si vous buvez de la vodka, que vous allez au sauna et que vous travaillez sur vos tracteurs, tout ira bien. Donc c'est pris un peu avec légèreté, mais en tout cas, il n'y a pas de consigne générale, on va dire.
William Acambray vit, quoi qu'il en soit, ces dernières semaines en Biélorussie. Il reviendra jouer dans le championnat de France la saison prochaine au sein de l'équipe d'Aix-en-Provence.
Et sachez que les compétitions n'ont pas été interrompues non plus au Nicaragua, au Burundi et au Tadjikistan.
C'était le journal d'Estelle Schmitt. Le temps de ce dimanche, eh bien ça se couvre, hein, Jean-Michel Gonaski.
Changement de régime à partir d'aujourd'hui avec l'installation d'un ciel pluvieux orageux sur les trois quarts du pays. Seules les régions situées entre l'est du Rhône et de l'Auvergne au golfe du Lion vont conserver un temps sec. Ailleurs, sous un ciel incertain, des averses parfois mêlées d'orages vont se développer sur la moitié ouest de la Bretagne aux Pyrénées, gagnant rapidement ce matin le sud de la Garonne et les Charentes, puis remontant vers les départements bretons. Du nord de la Loire au Grand Est, les averses agrémentées de coups de tonnerre seront quand même plus dispersées. Les températures de l'après-midi en baisse près de l'océan, stables à l'est, vont afficher 18 à 20 degrés de Brest à Biarritz, jusqu'à 26 sur l'Alsace et l'Île-de-France.